Benoît Flamand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la gestion tech chez Four Point Investment Manager. On va parler avec vous de cette actualité des valeurs technologiques qui est assez riche avec, bien sûr, le deal Microsoft-Nokia. On a parlé également de Verizon et de Vodafone. On parle du nouvel iPhone. Vraiment une actualité chargée. Si on revient sur d'abord, cette opération importante de Microsoft avec Nokia, qu'est-ce qui vous interpelle le plus justement sur ces technos c'est ce type d'acquisition?
C'est la fin de Nokia, hein. Faut le dire. La société, la marque va disparaître. Donc bon, c'est un échec total. Donc voilà, après, je dirais quelque part maintenant, si vous voulez, la patate, elle repasse chez Microsoft. Je crois que le message, c'est ça que ça voulait dire, c'est que Nokia allait dans le mur, et donc il fallait qu'ils fassent quelque chose. Donc Microsoft avait deux solutions, ils arrêtaient, ou bien ils reprenaient Nokia pour donner des garanties aux développeurs d'applications, aux opérateurs, aux partenaires, que non, non, il y a un commitment maintenant de Microsoft pour continuer. Et Microsoft va mettre encore plus de moyens qu'avant. Donc ça peut être la fuite en avant. Ou peut-être que Microsoft y arrivera. Microsoft a une conviction intime, notamment Steve Ballmer, que de toute façon, si on essaie une fois, deux fois, trois fois, on finit toujours par y arriver. Alors c'est vrai, c'est pas toujours vrai. Mais du coup, ils essayent toujours. Microsoft n'abandonne jamais, ne cède jamais rien. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les investisseurs sont assez froids avec Microsoft et considèrent qu'il faut savoir vendre des activités à la GE, à la IBM.
Alors pour les boursiers un petit peu passionnés, Nokia ça a été une valeur vedette hein, de la cote dans les années 2000, dans cette période Internet notamment. On en avait parlé ensemble à l'époque
Oui.
de Nokia. C'était un peu la valeur qu'on regardait trimestre par trimestre. Hein, les résultats de Nokia, le résultat par action de Nokia, c'était quelque chose que les investisseurs regardaient vraiment de près. Quand même, en un mot, comment on a pu arriver de ce Nokia-là au Nokia d'aujourd'hui et obligé de se faire racheter quelque part pour.
Oui, société phare, hein, qu'on montre en exemple, société qui était très tôt dans les pays émergents, elle a craqué le marché chinois, 50% du marché, 75% du marché de l'Inde, 40% du marché des smartphones, un cours de bourse qui fait x600 entre 92 et 2000, bon, que demander de plus? Olila était une star, comme Steve Jobs ou Bill Gates, et puis voilà, tout ça est parti en fumée. C'est assez fascinant. Alors bon, je crois que si vous voulez, les technologies, ça va vite. Les technologies consommateurs, ça va encore plus vite. Et puis là, on a une rupture qui est quand même majeure. Je vais pas si vous voulez donner des excuses à Nokia, mais une rupture telle qu'on a connue avec l'arrivée des smartphones et l'iPhone, c'est quelque chose qui est incroyable. Aujourd'hui, vous avez plus de 50% des téléphones dans le monde vendus qui sont des smartphones. 6 ans après, c'est inimaginable. Donc si vous voulez, il faut, à mon avis, un management hors du commun pour réagir, accepter de se remettre complètement en cause, repartir d'une page blanche. Et bon, voilà, le management de Nokia n'était pas à la hauteur. Est-ce que Olila, qui était parti en 2006, aurait fait ça? Bon, on ne sait pas.
Ouais,
On ne saura jamais.
on saura pas. Alors on pourrait dire que Samsung, lui, le groupe coréen, lui, a pris clairement a suivi la trace d'Apple et plus que bien, puisque effectivement a une part importante de marché aujourd'hui sur ses smartphones.
Oui, c'est ça, 32% de part de marché, Apple c'est 14%. Hein. Et en fait, enfin, on pourrait dire c'est la combinaison Samsung et Android de Google, c'est la combinaison des deux, si vous voulez, l'un qui fournit le système d'exploitation, qui n'arrête pas d'innover, hein, donc qui a largement rattrapé, moi à mon avis, même dépassé sur certains points iOS d'Apple, et puis la puissance marketing, la puissance de la force de frappe de Samsung et la réactivité de Samsung, qui est capable de réagir et aussi d'essayer. Contrairement à Apple qui dit, moi je sais mieux que tout le monde ce que les gens veulent, Samsung dit, moi je vais essayer, marketing traditionnel, on va essayer de faire des écrans plus grands, tiens ça marche, tiens on va en faire encore plus grand. Puis voilà, on essaye, on segmente, et tout ça fait que vous arrivez à 32% de part de marché.
Alors, quand on parlait de Nokia, c'est bien entendu un acteur européen, c'était un acteur européen clé, phare. Est-ce que c'est l'Europe des télécoms qui a effectivement du mobile qui perd au profit des Américains et des Coréens
Alors, oui, il y a un pas que certains franchissent. Je lisais là ce matin Fleur Pellerin, disant oui, c'est à cause de la réglementation, c'est Bruxelles encore une fois. Bon, je pense que d'autres disaient que c'était Alcatel était en difficulté à cause de ça. Non, je crois que si vous voulez, ça serait probablement arrivé de toute façon. Je pense qu'on est dans une logique mondiale, on est dans une logique industrielle, dans une logique marketing. Surtout, on est dans une logique maintenant logicielle, Internet. Et ça, c'était pas le point fort de Nokia. C'était une société qui est quand même très axée sur le matériel. Donc, je crois que ça sera arrivé quand même. Donc, oui, c'est vrai que l'industrie des télécoms, on a tout inventé en Europe. Le standard aujourd'hui, la 3G, la 4G, c'est les standards européens, c'est eux qui ont gagné, mais ce n'est pas les industriels européens qui ont gagné.
Donc on retrouve effectivement la question clé du marketing, finalement du commercial. Sans commercial efficace et sans marketing efficace, place. On a beau avoir un produit qui fonctionne, ouais. Qui est peut-être technologiquement au point, ça ne suffit pas.
Oui, enfin, encore que Nokia, je crois, avait un marketing extraordinairement efficace. La marque Nokia, Connecting People, tout le monde connaît ça dans le monde entier. Donc, c'est pas, je ne crois pas que ce soit ça. Je crois que c'est surtout, si vous voulez, la capacité à se réinventer, la capacité à aborder un virage, une rupture. Et là, je crois que les Européens ont du mal à négocier les virages étroits. Ils sont plus à l'aise dans les lignes droites, quoi. On le voit avec SAP, on le voit avec Nokia, on le voit. Donc, je crois que c'est plutôt ça, être capable de tout recommencer. Donc ça, c'est vrai que la mentalité Silicon Valley, et voilà. Et puis il y a les startups, il y a cette espèce de mouvement permanent aux États-Unis. Les Américains, je pense, sont plus à l'aise avec des environnements mouvants.
Alors c'est peut-être la question qu'on s'est posée également sur Apple au cours des derniers mois, avec bien sûr la mort de Steve Jobs, et qu'allait devenir le nouvel Apple sans Steve Jobs, est-ce qu'il était, et on a eu ces nouveaux produits qui viennent de sortir, et on a commencé à avoir quelques commentaires en disant il n'y a pas vraiment de révolution, pas vraiment de... est-ce que le sujet aujourd'hui, y compris pour les investisseurs d'ailleurs, c'est comment Apple va se réinventer aussi, c'est un vrai sujet ?
Ah, c'est un vrai sujet, je crois qu'on a toujours dit nous que les 18 mois qui suivaient la mort de Steve Jobs, il n'y avait pas de souci, parce que bon, Apple était sur la continuité, mais on est au-delà maintenant, et il y a des vraies questions, hein. C'est vrai qu'en termes d'innovation, il ne se passe plus grand-chose, les annonces d'hier sont décevantes, la taille de l'écran, les gens en veulent, que vous aimiez ou pas, c'est comme ça, notamment en particulier en Chine, les gens veulent des grands écrans pour des raisons de pictogrammes et autres, et on reste sur la taille d'écran, ça n'a pas bougé, le prix... On baisse de $100, donc 650 à 550, c'est pas suffisant à mon avis. Donc oui, il y a quelques innovations, ok, l'empreinte de votre empreinte numérique et autres, mais il y a non. Je pense que si vous voulez, l'annonce d'hier était extrêmement décevante.
Donc ça veut dire qu'il va y avoir à nouveau une pression sur justement comment, sachant que c'est un marché qui se renouvelle effectivement très vite, où il y a des pratiquement tous les 6 mois, on nous annonce, donc les consommateurs font une pression très forte auprès de ces constructeurs. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que c'est Samsung qui a le vent en poupe, qui effectivement est devant de point de vue innovation ?
Alors, encore une fois, l'innovation, une bonne partie, c'est Google, hein, c'est Android. Samsung essaie de rajouter ses couches logicielles avec un bonheur plus ou moins, enfin, un succès plus ou moins mitigé. Moi, je pense que souvent, c'est plutôt des choses qui sont plus encombrantes, qu'on rajoute sans vraiment valeur ajoutée. Donc, ça reste quand même Google qui définit la stratégie et Samsung derrière qui apporte toute la couche matérielle. Donc oui, ce duo, à mon avis, va rester pour un bon moment. Alors après, il y a probablement de la place pour des acteurs qui peuvent monter, peut-être Sony. Peut-être, mais je crois que surtout il faut surveiller les Chinois. Vous commencez à avoir des marques chinoises, on n'en parle pas trop parce qu'elles sont en Chine. Il faut avoir deux chiffres en tête sur la Chine. Le segment des smartphones à moins de $250, c'est plus de 70% du marché en Chine. Et la deuxième chose, c'est que la Chine aujourd'hui, cette année, ça va être 35% du marché. Donc ce qui se passe en Chine est prédominant. Et là, vous voyez une éclosion de smartphones chinois et qui, à mon avis, vont commencer à envahir, peut-être pas forcément tout de suite l'Europe, mais au moins les pays émergents et qui vont compter. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller.
Donc vous allez avoir des marchés peut-être plus segmentés et il y aura, par exemple, Apple aujourd'hui n'est pas sur ce marché-là, sur ce segment-là.
Non, le message d'hier est clair. Non, on ne veut pas y aller, on veut rester plutôt en BMW. Pourquoi pas ? BMW, c'est une très belle société, mais Daimler-Benz aussi, si vous voulez. Le seul problème, c'est que vous devez avoir une stratégie de volume. Parce que si vous n'avez pas de volume, les gens qui développent des applications vont arrêter d'aller chez vous. Si vous n'avez plus d'applications, les gens vont arrêter d'acheter vos smartphones. Donc vous avez cette notion d'écosystème qui est drivée par le volume. Et ça, je crois qu'Apple ferait bien attention de suivre ça.
Eh bien, effectivement, un secteur de ces valeurs technologiques particulièrement en mouvement en ce moment avec ces dernières opérations. Merci Benoît Flamand d'avoir fait le point avec nous. On rappelle que vous êtes donc responsable de la gestion tech chez 4Point Investment Manager.
Merci.